Bienvenue dans Entre deux notes, le podcast où on parle musique, créativité et bon moment entre passionnés. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous touche tous en tant que producteurs, le mixage. Comment passer d'un arrangement à un son propre, équilibré et pro? Quels outils on utilise? Quelles galères on traverse tous? Je suis PKMWT et avec moi,
il y a l'Invi, c'est moi.
Et pour en discuter, aujourd'hui, exceptionnellement, on a un invité.
Et oui, c'est moi, Osinji.
Voilà, membre de notre collectif Music We Trust, qui mixe avec ses oreilles et avec son cœur. N'est-ce pas? Osinji, présente-toi un petit peu. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Pourquoi tu es dans ce podcast? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir avec nous dans Music We Trust?
Donc Osinji, ça fait pas mal d'années maintenant que je fais de la musique. J'ai fait de la guitare, de la batterie dans différents groupes de reprises. Et en parallèle, je faisais de la musique électronique. Mais tout ça, c'était en activité, c'était plus un hobby, une activité plus sérieuse. Et après, j'ai fait une pause de quelques années. Je m'y suis remis il y a 3 ans, un peu plus sérieusement, suivant des formations. Et voilà, là, j'ai redécouvert Cubase que j'utilisais. C'était le Do que j'utilisais il y a très longtemps. Et j'ai découvert ensuite Ableton, qui m'a beaucoup plu. À partir de là, j'ai fait quelques formations. Et ensuite, j'ai un morceau là qui est sorti sur le label de Knarf des Sondiers, sur Orange Machine, le morceau Alive. Et j'ai aussi participé à l'album Joachim Garou & Friends. Et voilà, et quelques mois plus tard, l'Invi m'a contacté pour une collab. Et c'est le morceau Night Train qui est sorti il y a quelques mois. Et suite à ça, il m'a proposé de participer à votre collectif que vous étiez en train de former. Music We Trust, et voilà, ouais. C'est pour ça que...
Top, merci pour la presse. Effectivement, un collectif qu'on a monté suite à l'épisode 0 de ce podcast, on a discuté des différentes formes que pouvaient prendre des musiciens entre eux. On s'était dit, tiens, une forme intéressante, c'est un collectif. À deux, c'était peut-être pas très intéressant de faire un collectif, et puis comme Osinji, tu étais dans le pipe avec cette collab, on s'est dit, allez, viens, on monte ce collectif. Ça vous présentera peut-être un membre supplémentaire lors du prochain podcast, s'il est intéressé. Pour l'instant, on garde le mystère. Voilà. Très bien. Tu as déjà donné un petit peu pas mal d'informations, mais je te laisse la parole au Sinji pour me donner un peu ton état d'esprit du moment, tes projets en cours, tout ça. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ta vie,
ça, etc. Bah là, ces derniers temps, j'avais remixé un morceau de l'Invi. L'Invi m'a remixé aussi Alive. Donc ça, c'était les dernières sorties.
Donc Alive, c'était le morceau que tu avais fait sur le label de Knarf, c'est ça?
Orange Machine. Orange Machine. Et puis là, en ce moment, je prépare un EP qui sortira sûrement pendant l'été. J'ai 3 morceaux qui sont à peu près finis. J'aimerais bien en sortir quatre. Et je m'exerce pour bien mixer en tant que DJ, pour à terme mixer dans des petits bars, faire quelques événements comme ça, passer mes morceaux aussi. Donc c'est ça l'actualité. Donc je m'entraîne sur ce sujet actuellement.
Ok. Et donc tu disais avant, tu faisais du Cubase et maintenant tu es sur...
Oui, j'ai commencé sur... Ouais.
Donc on a une sainte trinité, tu vois, il y a Bitwig pour moi, l'Invi est sur Logic et toi t'es sur Ableton, c'est bon.
C'est ça.
Parfait pour faire des collabs, parfait.
Ouais.
Super. Cool, merci. Et sinon ça va dans la vie
Très bien, voilà. Ça va très bien.
Ok, cool, en forme, tout ça, pas de problème de santé?
Non, pas pour l'instant.
Juste les arcanes de la haute administration.
Ça va, quelques nuits blanches des fois, je... Et oui, ouais. J'ai entendu ça, j'ai appris ça, j'étais un peu étonné, mais ouais.
Tu as des soucis avec les arcanes de l'administration?
Ouais, apparemment, ouais.
D'accord.
T'as pas entendu.
Bon, l'Invi a plus d'infos. L'Invi a plus d'infos. Ouais.
D'accord. Alors, justement, on va passer à toi, l'Invi. Comment ça va? Projet en cours, état d'esprit du moment?
État d'esprit du moment, bon, je suis un peu à la bourre sur mon morceau du mois, mais voilà, je suis en train de travailler sur mon morceau personnel, plusieurs collabs. Donc, ça avance, plusieurs projets en vue. Voilà, 3 collabs en cours, malgré tout. Donc, après, on verra bien quand ça sortira. Donc, voilà, donc pour l'instant, je n'en dis pas plus. Mais sinon, ça va très bien.
Ah, cool. Bah cool, pour ma part, ça va aussi, le soleil se pointe, donc pour moi tout va bien. Dernier morceau, White Dot, qui est sorti, marche bien. J'atteins mon public, donc il n'y a pas de souci. Collaboration, ben déjà maintenant bien entamée avec toi, Linvi. On en parle enfin, puisque au dernier podcast, on voulait rester un petit peu... on ne savait pas trop. En fait, le dernier podcast, bah, tu étais chez moi physiquement. Et on était en pleine élaboration de cette collab. Et puis, je pense que vu l'état du morceau, ça devrait donner quelque chose. On va dire ça comme ça. Donc, on va en parler doucement. On n'a pas de titre encore. Hein, on est en plein... En fait, on est en fin d'arrangement, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs... Ben, on va passer, je pense, incessamment sous peu, peut-être cette semaine, dans la phase du mixage. Et oui, mixage. Alors, mixage. Osinji, tu me parlais de mix DJ. C'est ça le mixage ?
Pas tout à fait, non.
Ah, du coup, c'est quoi ? C'est quand non. Tu prends des fruits, tu mets du lait, puis ça fait un smoothie ? C'est quoi le mixage, finalement ?
C'est presque ça. Tu prends tes différentes... À la place de prendre des ingrédients, tu prends tes pistes, différentes pistes donc, que tu as assemblées pendant que... Pendant ta phase de compo et d'arrangement, donc tu te retrouves avec pas mal de pistes et ensuite, il faut que ces pistes, quand tu les entends, il y a tout soit à sa place, qu'il n'y ait pas des éléments trop forts, des éléments qui jouent à des niveaux, qui changent de niveau brusquement, des choses comme ça. Donc voilà, le mixage, c'est ça, de faire tout faire fonctionner ensemble.
Qu'une cohérence.
Bah, top, belle définition. Ouais, Linvi, tu voulais rajouter ?
Qu'une cohérence entre les pistes, en fait, que le tout soit cohérent. Ouais.
C'est vrai. Quand tu as 4-15 personnes qui crient dans un micro et qu'il faut que ça arrive sur du stéréo, au bout d'un moment, effectivement, il faut utiliser du mixage. On va dire ça comme ça. Alors, très concrètement, c'était quand on voit un ingé son, si j'ose utiliser le terme ingé son, tu le vois souvent derrière sa table de mixage, justement. C'est-à-dire ces espèces de gros machins avec plein de faders, plein de potards, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, il a, en fait, c'est toutes ces entrées sonores qui rentrent dans cette table. Et le but du jeu pour lui, c'est finalement de couper un peu dans ce son. C'est-à-dire autant dans le gain, dans le volume, peut-être dans la plage fréquentielle. En tout cas, il doit faire en sorte qu'à la fin, ça sonne. Mais maintenant, concrètement, on a deux termes. On a aussi mix, on a aussi master. C'est quoi la différence entre les deux ? Osinji.
Le master, c'est une fois que ton mix est terminé, une fois que tu es satisfait de tout sonne bien, que tu as écouté avec d'autres morceaux qui te plaisent dans le même style, que tout sonne bien. Ensuite, le master, c'est la dernière étape pour que le morceau sonne le plus fort possible, on va dire, qu'il sonne au moins au équivalent à ce qui sort dans le commerce, quoi, et que le son sonne. Quel que soit ton support d'écoute, quoi, que tu puisses l'écouter sur ton téléphone, sur une télé, sur une chaîne IFI, dans une voiture, tu auras toujours le meilleur son possible.
D'accord. Tu es d'accord avec ça, Linvi ?
Bah, historiquement, le mastering, c'était, surtout quand on faisait le pressage en CD ou vinyle, c'était la dernière étape où on vérifiait que ça correspondait aux standards du marché et que ça colle avec les autres releases sur la distribution. Donc le mixage, c'était vraiment plus une étape vraiment importante où on s'assure qu'il y a une cohérence, on vérifie les niveaux des différentes pistes, etc., comme a dit Osinji. Mais le mastering, c'est vraiment la petite étape finale. Normalement, au mastering, on ne doit pas trop toucher au morceau. Donc en général, on le fait d'ailleurs sur une piste, sur l'export final, donc sur une seule piste, on fait le mastering. Et on fait des petites retouches pour s'assurer que ça soit au standard du marché. Mais on n'est pas dans des traitements aussi agressifs que lors du mixage. Donc, c'est vraiment l'étape finale, la cerise sur le gâteau, quoi, normalement.
Ouais. Ce que j'avais cru comprendre, c'était aussi, comme tu parlais de l'époque sur vinyle ou CD, c'était une étape aussi pour pouvoir faire rentrer techniquement, finalement, ton son sur ce support-là. En fait, ces supports-là avaient des contraintes, simplement. Un vinyle n'a pas... Tu peux pas lui faire rentrer n'importe quel son dedans, parce que sinon, ça sonnera pas, ou l'aiguille ne pourra pas restituer correctement le son. Et donc, il fallait qu'à la fin, tu puisses, appliquer une couche supplémentaire pour être sûr que ton pressage vinyle va être correct. Avec le CD, c'est peut-être moins le cas, mais quoique, il y avait quand même des contraintes. La cassette magnétique avait des contraintes aussi. Et puis, comme tu le disais, faire sonner de façon homogène, peut-être même plusieurs morceaux sur un même album, ça c'est déjà une chose, mais peut-être aussi d'un album à l'autre, on aimerait aussi avoir une constante, quoi. C'est-à-dire se dire, ah, là j'écoute du tel et tel artiste, et puis ça sonne, ça a ce son ou ce feeling final.
Même toi, si... tu avais édité un vinyle, je crois, tu sais ça.
Ouais, un EP, ouais.
Donc est-ce que tu avais refait un master spécialement pour...
Non, en fait, j'avais déjà en tête de le faire dès le début, l'EP. Et du coup, finalement, au niveau du mastering, j'ai utilisé presque les mêmes méthodes à la fin. Je me suis assuré que, après que j'ai fait le premier morceau, j'ai utilisé à peu près la même technique pour le deuxième et j'ai tout de suite comparé le deuxième au premier, et etc., etc. Donc, je me suis assuré que tout était homogène à ce niveau-là. Voilà. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec mes titres que j'ai sortis qui vont peut-être être publiés sur un EP à la fin de l'année. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée. On gagne un peu de temps. Voilà, voilà. Très bien. Bon, on a déjà parlé un petit peu de l'objectif d'un bon mix. Hein. L'objectif d'un bon mix, c'est que ça sonne bien, que les instruments ne sonnent pas confus entre eux, que les voix sortent bien et que l'artiste est quand même satisfait finalement de ce qu'il entend. Hein. On a déjà eu des exemples. Je crois que toi aussi, Shinji, tu m'en parlais. Tu avais des exemples où tu avais donné ton morceau à un ingé.
C'est ça, c'était avec, j'en avais pas parlé, mais je fais aussi de la musique avec un chanteur qui s'appelle Adam No. Et là, c'était il y a 2 ans à peu près, on avait fait un morceau qu'on aimait bien et on voulait le faire mixer par un producteur avec lequel il travaillait. Mais c'était un producteur qui était plus pop française et nous, c'était plus de l'électro. Donc le mix au final nous correspondait pas du tout parce que voilà, faut aussi dire qu'il y a une grande partie artistique dans le mix et il y a beaucoup de choix qui se font en fonction de nos goûts et on peut pas confier comme ça le mix, je pense, à quelqu'un qui connaît pas bien le style ou avec qui on n'échange pas avant sur la direction qu'on veut prendre.
Ouais, c'est intéressant, effectivement, c'est que selon un genre, on ne mixe pas de la même manière. On va pas mixer un groupe de rock comme on va mixer un morceau de drum and bass, comme un morceau peut-être plus ambiante ou acoustique. Il y a déjà effectivement la part artistique et puis il y a aussi le fait qu'il y a certains codes ou certaines techniques de mixage qui sont différentes selon les genres. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de le souligner.
Ouais. Ok. Ouais. Donc voilà. Et donc toi, tu as une mauvaise expérience, hein, c'est-à-dire, Shinji, tu me disais que finalement, le résultat final n'était pas attendu, quoi. C'était pas ce que tu attendais, ou en tout cas.
Non, c'est pas ce qu'on a attendu, mais bon, pour ce morceau, on est quand même allé jusqu'à l'étape du mastering. Et puis bon, pour l'instant, le morceau n'est pas encore sorti. On va voir si on le sort ou si on refait complètement le... Parce qu'après, suite à ça, on a fait un remix du morceau qui nous plaît plus.
D'accord.
Et donc voilà.
Ok. Parfait. On va passer aux bases dans un DAW, un Digital Audio Workstation. Et j'aimerais faire un petit disclaimer avant de passer à cette étape. On l'a pas fait au dernier épisode, mais on en avait longuement parlé, Lindvi. Dans l'épisode 1, on parlait des DAW. Tu te souviens?
Oui.
Et en fait, on a oublié tout un pan de la production musicale, n'est-ce pas?
Ah oui, lequel?
Le DAWless.
Ah oui, le DAWless, oui.
On parlait vraiment que pour un producteur musical, le DAW, c'est indispensable, etc. Et bien sûr, on ne veut vexer personne. Le DAWless était... D'ailleurs, le DAWless existait avant le DAW, hein, comme ça. Parce que c'est des tables de mixage analogique, c'est bien sûr les gens qui jouent peut-être en live, etc. Le DAW a remplacé petit à petit ça, mais il y a aussi une mode qui est un peu sur le retour, c'est-à-dire d'acheter du matériel 100% physique, des espèces de, des fois même des workstations un petit peu physiques dans lesquelles tu fais entrer, sortir directement tes instruments. Et on appelle ça un peu le DAWless. Donc il y a beaucoup d'artistes qui, pour éviter de s'embrouiller dans les logiciels, dans les menu, sous-menu, touche raccourci et tout ça, et dans les innombrables VST et banques sonores, tout simplement retrouve un petit peu ces racines-là de la composition sans ordinateur, finalement. Voilà. Donc voilà, mea culpa, bien sûr, tout ce pan-là. Peut-être qu'on va l'aborder. Alors, moi, je suis pas DAWless, toi non plus, Lindvi, je pense pas.
Non.
Osinji, toi, t'es DAWless?
Du tout. Voilà. Du tout, non.
Bon, ça va être. Alors, il faudra qu'on trouve quelqu'un à inviter pour qu'il nous en parle.
Alors, il y a quelqu'un de la communauté des sondiers qui est spécialiste du dos.
Ah, voilà. On va voir si peut-être.
C'est Melokit. Je ne sais pas si vous connaissez Melokit. Oui. Il fait de la super musique.
D'accord. Ouais.
Et lui, c'est, je crois qu'il est 100% dos-less. Ouais.
Voilà. Donc, c'était pour faire un petit peu ce mea culpa, mais on va passer à la suite maintenant. On va essayer effectivement parler du mixage dans un dos. Donc, dans un dos, tu disais aussi, toi, Osinji, avant que quand tu mixes, tu as plusieurs pistes. Est-ce que tu as, toi, des astuces de comment tu organises tes pistes pour faciliter le mixage dans ton dos ?
Déjà, j'essaye d'avoir le moins de pistes possible, comme beaucoup, je pense, parce qu'on a tendance à accumuler plein de synthés, plein de batteries, et après, c'est une grosse galère pour le mixage à la fin. Donc déjà, si tu te facilites la vie comme ça, en ayant le moins de pistes pour les drums, déjà, le son sera beaucoup plus clair, ça sera beaucoup plus... beaucoup plus puissant et plus facile à gérer pour le mix. Donc voilà, après, je donne pas un nombre comme ça de pistes parce que ça dépend aussi des...
Allez, une fourchette.
Ça dépend des morceaux.
Une fourchette.
Moins de 16, moins de 20. Allez, moins de 20, c'est...
Ah, ça c'est beau,
moins
ça.
De 20, c'est bien. Moins de 20, c'est bien. Très bien. Ça me va.
Ok.
Au-delà, je m'y perds aussi, de toute façon.
Est-ce que là, tu dis moins de 20, mais dans la phase mixage, ça veut dire que tu pourrais en avoir plus avant et après, tu les rassembles ? Comment tu fais ?
C'est possible que j'ai, pour les FX par exemple, au début je mets un FX par piste et ensuite j'ai rassemble sur, je fais du resampling pour avoir tous les effets sur, parce que voilà, si c'est une suite de bruits blancs différents où j'ai des traitements différents, je les rassemble sur une seule piste pour m'éviter de prendre la tête ensuite à gérer toutes ces pistes.
Ça marche. Et toi, Linvi?
Moi c'est pareil, ici j'ai un template en fait, donc j'ai déjà un projet qui est préfait où j'ai déjà tout qui est nommé et classé. Comme ça je m'y retrouve et je mixe aussi par groupe, donc les basses, les subs, le lead, et j'ai des groupes comme ça en fait. Donc j'ai mes pistes individuelles qui sont regroupées en fait.
Et tu utilises du routing aussi, je sais plus comment tu appelles
ça oui.
Dans Logic.
C'est ça oui, c'est routé dans des bus. Et donc, c'est des ensembles. Donc, j'ai des ensembles, par exemple, comme je pourrais avoir des ensembles pour les synthés, des ensembles pour tout ce qui est vocal, un ensemble pour tout ce qui est les FX. Donc, du coup, je peux mixer avec ces bus, donc ces groupes, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est plus simple. Donc, effectivement, c'est bien trié et d'avoir... je mixe pas... Je mixe les pistes individuelles quand c'est nécessaire. Et alors, mais quand c'est des mix ou des compresseurs ou d'autres choses que je vais mettre sur un ensemble, parce que ça collerait avec les instruments qui en font partie, je le fais directement sur l'ensemble. Donc, comme ça, je peux gagner du temps aussi. D'accord. Ça dépend un peu. Mais j'ai un template qui est organisé avec des groupes clairs et des pistes claires. Donc, comme ça, je m'y retrouve et je sais ce que je dois mixer ensemble.
Mm-hmm. Le terme bus est un peu emprunté de ces tables de mixage physiques.
Oui,
hein, c'est
juste. Fait, oui.
Ouais.
Une tranche.
Voilà. Alors, toi, tu m'en parlais de ça, et puis je me suis dit, oh, putain, moi, j'utilise pas du tout ça, etc. Mais en fait, je l'utilisais depuis déjà pas mal de temps, mais dans Beatwix, ça s'appelle un groupe, en fait. Tu prends deux pistes, tu fais clic droit groupe, et puis en fait, ça les groupe entre eux.
C'est ça.
Et la sortie de chacune des pistes, elle est automatiquement redirigée vers la piste du groupe. Et en gros, c'est un bus.
Exactement, oui. C'est dans Ableton et dans Beatwix.
Ableton aussi. Hein.
Oui, dans Ableton et Beatwix, les groupes sont les bus. Alors que dans les autres dos, c'est un avantage ou un inconvénient. Ça peut être plus flexible, mais du coup, ça paraît moins logique peut-être pour certaines autres personnes. C'est qu'on peut faire les groupes et les bus indépendamment de l'un de l'autre dans Cubase ou dans Logic, par exemple. Donc, ça dépend. Voilà.
Ok. Très bien. Moi, comment j'organise mes tracks, pareil, j'essaie d'en avoir le moins possible, de les regrouper au maximum. J'ai un template assez basique où je dépasse pas les 8 pistes dès le début et puis après, par la suite, les augmente si j'en ai besoin. En fait, je me sers surtout de cette limitation pour me dire, si j'utilise un contrôleur MIDI externe, souvent comme une matrice, je sais pas moi, 8 sur 8, c'est toujours pratique de n'avoir que 8 pistes. Mais bon, généralement, je finis à, on va dire, plus que 15, on va dire ça comme ça. Mais j'essaie d'être le plus concis possible, effectivement, pour m'y retrouver. Surtout, j'utilise des codes couleurs, j'utilise des titres comme lead, basse, harpe, cordes, etc. Histoire de les retrouver par code couleur. Donc voilà, ça c'est très important pour moi aussi. Gain staging, ça c'est aussi assez important. Linvi, toi t'es un peu, je dirais pas un expert là-dedans, mais t'avais trouvé un super outil pour nous automatiser ça. À quoi ça sert le gain staging?
Bah, le gain staging, à la base, je crois que dans le monde analogique, à la base, c'était pour être sûr que le niveau soit correct, qu'il ne sature pas, hein, et qu'on ait à peu près le même niveau partout. Ici, maintenant, dans le numérique, à l'ère actuelle, contrairement à l'époque, ce n'est plus forcément une étape nécessaire dans le sens que on risque pas d'écréter à un certain volume, on ne risque pas d'écréter, parce que je savais bien qu'en analogique, c'était pas aussi facile à calibrer le volume. Donc du coup, c'était une étape importante pour être sûr que ça n'écrète pas ou qu'on ne rentre pas dans la saturation de ce que pouvait accepter l'appareil. Et aussi, tout n'était pas forcément au même niveau parce que je crois qu'ils avaient des appareils pour avoir des mesures, des unités de mesure différentes. Maintenant qu'on est en numérique, ce n'est plus important à ce niveau-là. Par contre, ça reste une bonne pratique, je pense, simplement pour avoir les pistes au même niveau. Donc, le fait d'avoir toutes les pistes au même niveau, c'est plus simple par après au mixage de dire, ben voilà, celle-là, je vais la mettre plus fort que l'autre, celle-là, je vais la rebaisser par rapport à la précédente. Et du coup, tu as un niveau global, tout est aligné. Après, tu n'as juste qu'à baisser ou remonter la piste en fonction de tes besoins ou de tes envies. Alors que si tu ne fais pas de gain staging, ben, tu vas avoir des pistes avec des volumes un peu de partout différents, ça va être très disparate. Et ça peut être un peu le cauchemar par après quand il faut rééquilibrer les volumes. Donc moi, j'avoue que j'aime bien faire le gain staging. Bon, après, il y en a qui pensent que ce n'est pas dispensable. Mais voilà, moi, pour ces raisons-là, je pense que c'est plus simple de changer les niveaux quand tout est déjà au même niveau de base. C'est plus simple d'ajuster. Ben, moi, je préfère faire ça, en tout cas. Et effectivement, il y avait le petit plugin qui s'appelle, je le reprends ici. Donc,
Hornet.
Hornet Vumeter MK4. Qui permet de faire le gain staging automatiquement. Donc, en fait, il va ajuster la piste à moins 18 dB du volume perçu, donc pas du volume réel, du volume perçu. Donc, comme ça, on n'est pas faussé non plus en termes d'audition. C'est vraiment, les pistes vont sonner au même volume toutes. Donc, du coup, tu as vraiment un équilibre parfait entre les pistes. Et après, c'est plus simple de les réajuster par après.
OK.
Et c'est un plugin qui coûte 4 euros. Donc,
ouais. 4 euros ?
Oui.
Ah oui, je l'avais acheté aussi, c'est vrai. Alors moi, je l'avais eu en promo à, je crois, 1 euro, je crois, un truc comme ça, avec une grosse, grosse promo. Je pense qu'ils en font assez souvent. Donc, c'est vraiment donné, hein, le truc. Ouais, au Sinji, t'avais quelque chose à rajouter ?
Oui, pareil, le gain staging, c'était... parce qu'en plus le fait que ça pouvait saturer, quand dans le monde analogique, il y avait aussi le fait d'enregistrer avec les micros, si tu mettais... le son trop bas, tu avais tout un tas de bruit de fond qui était causé par les machines. Que quand tu remontais le son du micro, tu te retrouvais avec tout le bruit de fond amplifié, tout le souffle. Donc, c'était ça aussi, ça servait à éviter ça. Et c'est vrai que le gain staging, moi, c'est pas une étape très importante pour moi, en tout cas. Moi, j'essaye de baisser les parce que sur Ableton, on est à zéro, de toute façon, on est à zéro. C'est le max de la... Pour chaque piste, on est à zéro par défaut, donc on arrive vite à saturation si on cumule quelques pistes. Donc moi, j'essaie de baisser moins 6, moins 12 en fonction de ce que je suis en train de faire, pour que quand toutes les pistes cumulent, que le master ne soit pas rouge tout de suite, quoi.
Ouais. Bah, ça, c'est vrai que c'est important, c'est une petite précision par rapport à ce que j'expliquais par rapport à l'analogique. C'est qu'effectivement, l'avantage dans le numérique, c'est que la piste, elle peut aller dans le rouge. Tant que le master n'est pas dans le rouge, ça ne sature pas. Donc, c'est ça l'avantage. Mmh. Tandis que dans l'analogique, ben, si tu as un élément, vu que c'est un peu séquentiel, vu que si tu as un élément qui sature, ben, il va continuer à saturer tout le reste du. Parce qu'il va être enregistré en tant que. Ah, il va être enregistré tel quel, et il saturera à la fin, parce qu'il va traverser toute la chaîne comme ça. Alors qu'avec le numérique, vu que l'audio n'est généré qu'à la fin, ben, tant que le master ne sature pas, ben, il n'y a pas de problème. Mais en analogique, ça ne marchait pas comme ça. Donc, du coup, c'était très important le gain staging.
C'est vrai que même si tu fais saturer le master, c'est vrai que tu peux aller au-delà du 0 dB. Si tu restes en 32 bits float, même si tu exportes comme ça, tu n'auras pas de saturation. Et c'est l'avantage du numérique. Comme ça, tu peux réimporter ton fichier, même s'il est au-delà du 0. Et,
ouais,
et après, baisser le gain et tu rattrapes.
C'est ça, c'est beaucoup plus flexible. Ouais. Alors qu'avec l'analogique, il fallait vraiment tout calibrer. Et là, c'était vraiment une étape indispensable. Alors qu'ici, dans le numérique... Ben voilà, comme par exemple ici, Gilles l'a dit, pour lui, c'est moins important le gain staging. Bon, pour moi, ça l'est. Enfin, après, je ne vais pas dire que c'est forcément l'étape la plus importante, mais c'est une étape dans mon workflow. Et là, c'est plus selon les personnes. Il y en a qui ne font pas de gain staging. Et ils s'en sortent très bien, donc c'est plus une étape optionnelle. Mais voilà, moi, je pense que ça reste toujours une bonne pratique. Même si, effectivement, il y en a beaucoup qui décrient parce que cette méthode-là, pas parce que forcément les mauvaises en soi, mais parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça reste indispensable, alors que ce n'est plus le cas à l'heure actuelle, parce qu'il y a des personnes qui disent, bon voilà, on faisait le guest staging avant, il faut continuer à le faire maintenant, mais ils n'ont pas compris vraiment pourquoi, que les raisons ont changé depuis le numérique. Donc du coup, c'est pas, on le fait toujours, mais pas pour les mêmes raisons, okay, par rapport à avant.
Alors moi, je le faisais manuellement quand tu as chargé un VST de Native Instruments qui sont toujours beaucoup plus bas que tous les autres instruments. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont un gain beaucoup plus faible quand tu les charges. Donc, ça me faisait super chier quand je chargeais un truc. Donc, finalement, j'augmentais le gain de ce VST plus particulièrement par rapport aux autres. Ou quand je trouvais un VST, ou quand je trouvais un son ou un sample trop bas, ben, je le faisais comme ça à la main. Mais après, je ne le faisais pas systématiquement sur toutes mes pistes. Maintenant, grâce à ton outil, je le fais. Donc, c'est cool. Comme ça, je commence. Je suis sûr que je commence toujours quand je mets en volume moins 6 dB. Ben, je sais que au son le plus fort qui est sorti de l'instrument, ben, c'est vraiment du moins 6, du vrai moins 6 dB.
C'est ça.
Hein, c'est ça, hein, l'idée.
C'est voilà. Ça. Et encore une fois, et c'est après, le volume perçu, le plugin. Voilà. Il fait vraiment le volume perçu et pas le volume maintenant voilà. Enregistré. Donc.
Du coup, quand j'arrive dans cette phase de mixage, ben, là, je touche mes faders de volume. Et là, effectivement, j'ai un vrai. Ben, je touche vraiment au volume que je recherche au final.
Quoi. Bah, c'est ça. C'est même pour les faders, voilà. Effectivement, c'est plus confortable. Parce que si dès le début, ouais. Tu dois déjà pousser ton gain, etc., parce que tu n'entends pas assez fort, puis sachant qu'au mix, tu vas le rebaisser derrière, c'est un peu, c'est des étapes un peu superflues, alors que bon, tu mets ce petit plugin-là. Bon, je ne fais pas de la pub pour cette marque-là, mais bon, c'est juste que moi, j'ai trouvé ça qui va bien. C'est le genre de plugin, tu le mets et tu l'oublies, quoi, tu vois. Tu le mets, il fait l'ajustement automatique, et puis tu es tranquille, tu sais déjà que tu n'as pas besoin de rien faire d'autre que de devoir ajuster manuellement, puis après, tu vas devoir encore rechanger par rapport après au mix. C'est un peu laborieux, quoi. Alors, moi, c'est le genre de truc, je trouve que ça speed, ça améliore le process. Mais voilà.
Et ça te monte le gain si t'as une piste audio.
C'est ça. Ça le monte ou ça le baisse. Par défaut, à moins 18 dBFS, en volume perçu, encore une fois. Mais tu peux le paramétrer, tu peux le mettre à moins 6, à moins 12, si tu préfères. Ou tu peux enlever, je crois, le côté volume perçu, tu peux l'enlever. Enfin. Donc voilà, ça le fait automatiquement. En fait, tu le charges. Moi, par exemple, dans mon template, c'est le seul plugin qui est chargé automatiquement avec un EQ. Ouais. Il est chargé par défaut parce que comme ça, dès que j'enregistre, dès que j'active la piste, ben hop, il va ajuster automatiquement à moins 18 et puis je suis tranquille, quoi. Et j'ai pas besoin de faire le réglage manuel.
Ouais, je le fais aussi maintenant. Dès que je charge un nouvel instrument ou une nouvelle piste, j'ai ce plugin que j'ai rappelé. Je l'ai renommé Autogain, comme ça je suis sûr que je le retrouve. Et après, en fait, tu appuies sur un petit bouton qui s'appelle Auto. Et au moment où tu appuies dessus, il va lire ce que tu lui balances, donc la mélodie ou autre. Et il va s'ajuster. Ensuite, soit tu stops ton enregistrement, soit tu appuies sur Auto de nouveau pour le désactiver. Et il va garder le gain qu'il a trouvé, quoi. Voilà. Puis après, tu le laisses. Okay. Et il a fait son gain. Après, si tu as envie, tu peux toi-même aller ajuster ailleurs, dire OK, il a fait moins 5 dB sur le gain. Bah, je vais faire moins 5 dB aussi sur un autre potard et puis c'est réglé. Et puis tu peux l'enlever. Ah, mais coup, moi, je le laisse.
Ça peut servir d'autogain. Quand t'as des plugins qui t'augmentent le volume, ça peut te servir d'autogain pour revenir, pour pas être influencé par le volume.
Exactement. Et l'idée, c'est qu'il est ultra léger, donc tu peux le laisser dessus. Il va pas t'induire de décalage ou quoi que ce soit. C'est vraiment très, très light. Vraiment très simple et light. Voilà. Donc ça, c'est bien. On passe au sujet suivant, le pan. Alors, pan, c'est quoi l'Invi? Est-ce que c'est une sorte de pizza?
Le pan, ça vient du panning, donc c'est-à-dire de jouer avec, à faire déplacer à gauche, à droite pour les balances, donc la stéréo, pour faire basculer vers la gauche ou vers la droite un son, pour lui donner une image panoramique et donc pas avoir tout qui est centré au milieu. Et avoir, par exemple, un instrument on va tendre un peu plus à gauche ou un peu plus à droite pour donner un peu un espace stéréo, quoi, en fait. Donc, comme on aurait dans un orchestre, tout le monde n'est pas aligné en file indienne au centre. Tu as les cuivres qui vont être d'un côté, tu as les violons qui vont être placés à un autre endroit. Et donc, du coup, tu as des instruments qui sont plus à gauche ou plus à droite quand tu es face à l'orchestre ou que tu es face à un groupe de rock, par exemple. Donc voilà, c'est pour gérer l'image stéréo. Donc un peu plus à gauche, un peu plus à droite.
Effectivement, ouais. Donc oui, effectivement, pan pour, tu disais panning en anglais, et puis panoramique en français, on va dire. Mais ça m'étonne qu'on ne dit pas panoramique aussi en anglais.
Non, pas Nick.
J'ai cherché, hein, c'est deux termes différents. Enfin, c'est vraiment deux termes qui veulent à peu près dire la même chose. Donc, c'était juste. C'est juste panning, que, c'est... ça m'étonne.
Non, panning, c'est pas, hein? C'est pas panoramique. Panning, c'est...
Ah, c'est pas panoramique ?
Non, panning, ça veut dire déplacer, en fait. To pan, c'est déplacer.
Ah, ok. Intéressant. Ok. Donc, effectivement, là, ça sera plus pour se dire gauche-droite, quoi.
C'est ça.
Ok. T'avais un truc intéressant sur le gauche-droite, là, dernièrement. Tu peux nous faire un petit résumé là-dessus ?
Alors, oui. Ici, donc, en fait, il y a le panning. En fait, ça, c'est par convention. Donc, en fait, le panning, à l'origine, encore une fois, à l'époque analogique, c'était la balance, en fait. Donc, en fait, on choisit juste si le son, il y a plus de son à gauche ou moins de son à droite, enfin, ou inversement. Et c'est juste pour équilibrer. Donc, ça ne déplace pas l'image. Dans l'image stéréo, ça ne déplace pas un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Ça ne fait que baisser le niveau. Donc, c'est juste pour dire, par exemple, on peut couper complètement le côté droit. Et donc, on entend le son qu'à gauche, par exemple. Et ça peut être encore utile à l'heure actuelle si on veut isoler un élément. Donc, si on a un loop ou un sample, enfin un fichier audio avec des éléments à gauche, des éléments à droite, on peut complètement couper le volume à droite, par exemple. Comme ça, on garde que les éléments à gauche pour les isoler. Mais en fait, le problème, c'est que ça ne fait que mettre plus ou moins de volume à droite ou à gauche. Ça ne les déplace pas dans l'image stéréo, dans le panoramique stéréo, ça ne les déplace pas. Donc, c'est vraiment une question de volume, un peu plus fort ou moins fort d'un côté ou de l'autre. Mais ça ne les déplace pas à l'horizontale, plus à gauche ou plus à droite.
Donc, si je déplace un son à gauche et que en fait, mon son avait été très riche à droite, en fait, je vais baisser toute cette richesse de droite pour augmenter ce qu'il y avait plus à gauche, mais finalement à gauche, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Et en fait, mon son en devient moins riche, en fait.
C'est ça. Il y a ça aussi, okay. C'est ce problème-là aussi, effectivement, c'est que tu perds de la richesse. Alors, vu que tu baisses le volume, tu perds de la richesse de ces éléments-là. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, la balance. Donc c'est vraiment, c'est quoi une balance, donc c'est plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Mais encore une fois, ça ne déplace pas dans l'image panoramique.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça, faire un vrai panning, en fait ?
Donc, effectivement, le problème, pour préciser, c'est que par défaut, en fait, dans tous les dos, c'est la balance. Donc, c'est le mode par défaut. Et en fait, si on veut faire de la vraie stéréo, donc ça s'appelle du true panning, donc véritable panning, c'est une option activée en général. Donc, par exemple, dans Logic, il faut faire un clic droit sur le bouton du pan et tu as une option pour ça. Stéréopan. Dans Ableton, c'est pareil. Tu fais un clic droit et tu peux. Tu as une option pour ça aussi. Je crois que tous les dos, il faut l'activer. Parce qu'en fait, par défaut, c'était le standard, vu qu'à l'époque, les tables de mixage ne faisaient que de la balance et que le true panning, ça n'arrivait qu'avec les dos. Et en fait, du coup, c'est le standard par défaut, c'est de la balance. C'est pour ça que cette option-là, elle est activée par défaut dans tous les dos et qu'il faut l'activer manuellement pour faire de la vraie stéréo.
D'accord. Moi, j'ai dans Bitwig, j'utilise Dual Pan.
C'est ça, voilà.
Ça Dual Pan.
C'est ça, des fois, ça prend des
Donc, c'est juste un plugin que tu rajoutes dans ta piste. Et puis, malheureusement, il ne peut pas se combiner directement dans le bouton Pan qui se trouve dans la piste. Mais voilà, c'est juste un peu.
C'est ça, ça se traduit un peu différemment. Et je crois que FL Studio, c'est le seul qui active le true panning par défaut, sur la table de mixage en particulier, je précise. Parce que quand c'est sur le niveau des pistes, dans FL Studio, au niveau des pistes, c'est de la balance. Et dans le mixeur, c'est du true panning. Mais c'est le seul qui a, sur son mixeur, c'est le seul qui a le true panning activé par défaut. Parce que par convention, c'est de la balance. Donc, du coup, tous les dos mettent la balance par défaut. Mais donc, du coup, ce n'est pas de la vraie stéréo.
Ah, tiens, question à la con sur FL Studio. Petit quiz, Osinji. Tu sais pourquoi FL Studio s'appelle plus Fruity Loops ?
Ah non, là, je sais pas, non.
En fait, ils ont eu un procès de Kellogg's à cause de Fruit Loops.
Ah,
non.
Je ne savais pas.
Si. J'ai appris ça hier. Je ne sais pas, comme ça, au hasard. Donc voilà, il faut le savoir. Ouais. Je me suis dit, c'est dommage parce que Fruity Loops, c'était rigolo comme nom. Bon, ça ne faisait pas très pro. Quoi. Je me suis dit, bon, FL Studio, du coup, ça fait vachement pro. Non, ils ont eu un procès. Ouais. Voilà. Effectivement, ça peut prêter à confusion. Voilà, ça, c'était pour la petite note rigolote. Donc, panning, dual panning. Dans Ableton, comment on fait ce true panning, alors, au Sinji, tu sais ?
Comme Linville l'a dit, ouais, c'est un clic droit. Et alors, le terme exact, je ne sais plus, c'est séparer les canaux, je crois quelque chose comme ça.
Ah,
du coup, on se retrouve avec deux, de réglage pour le côté droit, le côté gauche qu'on peut inverser si on veut faire
parce qu'en plus avec le stéréo, enfin juste pas avec le true panning, c'est qu'en plus c'est que tu peux choisir la largeur de l'élément, tu peux choisir la largeur qu'il prend sur tout le spectre de gauche à droite quoi. Donc ça peut être un élément qui est en plus de gérer la profondeur à gauche ou la profondeur à droite, c'est que tu peux aussi gérer la taille qu'il prend, la largeur qu'il prend dans le champ stéréo en fait. Donc il peut avoir une largeur très 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 fine, enfin un angle fin, ou alors il peut prendre toute la largeur du spectre stéréo si tu veux. Donc il y a cette dimension là encore en plus avec le true panning, et c'est pour ça que des fois comme dans Ableton, ça se gère en séparant les canaux.
OK. Alors juste pour revenir là-dessus, moi j'utilisais pas trop ça, j'utilisais la balance classique jusqu'à ce que tu en parles effectivement Lindvi. En fait, avant ça, j'utilisais un autre plugin qui était un peu plus pratique parce qu'il me permettait vraiment visuellement de savoir où était mon son, plus dans l'espace, on va dire, que simplement à l'oreille. C'était Dear VR Micro. Et en fait, ça vient de Dear Reality, qui est une boîte là qui vient de se faire racheter d'ailleurs par Sennheiser Group. Et en fait, eux, ils sont spécialisés dans ces plugins-là un peu spatialisés. Ils utilisent du binaural pour spatialiser. Donc, tu peux vraiment avoir le sentiment d'avoir quelque chose au-dessus, en dessous, devant toi, derrière toi, etc. Et en fait, j'utilisais ça simplement pour dire, OK, je veux mettre mon instrument là, je veux le mettre là, je veux le mettre là. J'utilise pas le panning, j'utilise plutôt cet instrument-là. Alors, il est des fois un peu destructif au niveau du son. Il faut quand même faire assez attention. Je l'utilise avec parcimonie.
Le problème avec le binaural, c'est que tu peux être sujet à des problèmes de phase, vu que ça régénère des sons pour donner l'illusion que c'est dans une telle position. La technique du binaural, ça crée des problèmes de phase. Donc, ça peut annuler des sons et le détruire et donner un effet de boîte de conserve ou autre. Donc, ça peut le souci.
Effectivement. Donc, l'utiliser avec prudence, mais il est gratuit. En tout cas, Dear VR Reality Micro, il est gratuit. Après, ils ont des versions un peu plus pro où tout d'un coup, il y a plus d'options. Mais il est déjà très, très bien. J'utilise dans beaucoup de mes mix et puis ça donne vraiment une profondeur. Ça permet des fois de mettre effectivement un instrument comme un sentiment qu'il est en bas. En haut, enfin, c'est déjà un peu plus puissant. Et ça fait justement ce true panning finalement. Ça ne casse pas le son à gauche ou à droite en fonction d'où je le mets. Donc en fait, je le faisais sans le savoir. Tant mieux. Voilà. Donc ça, c'était pour le panning. On a autre chose à rajouter là-dessus ?
Sur le panning ?
Ouais.
Ouais, mais bon. Le seul truc qu'il faut faire attention de ne pas trop mettre d'éléments à droite ou à gauche pour ne pas déséquilibrer. Déséquilibrer le mix.
Ouais.
Donc, si on passe quelque chose à gauche, bien faire attention d'avoir quelque chose qui va aller à droite pour répondre à cet élément, pour pas qu'on ait une sensation de déséquilibre.
Ouais.
Et c'est vrai que et pour dire aussi que le panning, on peut le gérer avec des effets. On peut faire un délai en ping-pong, ce genre d'éléments, ce genre de choses, quoi. Et du chorus aussi pour rajouter un petit peu de stéréo. Donc, ça peut déplacer un peu le son dans l'espace, gauche-droite.
Effectivement.
Sans forcément le déplacer.
Et l'astuce ultime de Lindvi, qui m'avait une fois confié, c'était n'hésite pas à composer en mono, c'est ça ?
Voilà, exactement, effectivement. Ouais. Moi, je compose en mono. Donc, l'avantage du mono, c'est qu'en fait, des fois, si on met deux instruments ensemble, des fois même par défaut dans le preset du synthé ou autre, il y a les sons s'éparpillent sur toute la largeur stéréo. Et donc, du fois, on a l'impression que les instruments vont ensemble parce qu'il y a la largeur stéréo qui donne cette illusion-là. Mais si on repasse en mono comme sur un vinyle, en fait, on se rend compte que ces sons-là, ils s'annulent vu qu'ils sont ramenés sur les mêmes fréquences, ils sont recentrés, ils s'annulent. Donc, c'est des problèmes de phase, par exemple. Et alors, en fait, on se rend compte que les instruments ne vont pas du tout ensemble. Et donc, du coup, le fait de composer directement en mono, c'est que dès la sélection de l'instrument, j'entends directement si l'instrument va sonner avec l'autre ou pas. S'il y en a un que j'entends pas, c'est qu'il s'annule et c'est qu'ils ne vont pas ensemble et du coup, ça m'évite des problèmes sur le mix plus tard. Donc, le fait de composer en mono, c'est un peu comme Knarf a déjà mentionné ce concept-là, c'est faire du compose to the mix. Donc, c'est de composer en ayant déjà le mix en tête. Et donc ici, comme je compose en mono, s'il y a un problème... Si un des instruments ne sonne pas assez fort ou que je l'entends pas du tout, c'est que je sais déjà que je vais avoir un problème dans le mix plus tard. Donc du coup, ça me permet de faire les choix directement dès la composition et d'être prévenu que de composer tranquillement en stéréo comme tout le monde le fait. Et après, quand je fais un check en mono juste à l'étape du master et là je me rends compte qu'il y a tout qui s'annule, qu'il y a rien qui va, bah, ça m'évite ce problème-là de me rendre compte ça à la dernière étape, quoi. Donc,
Ok. Et toi aussi, Inji, tu composes en mono aussi?
Non, pas non. Je check, je check souvent pour voir si ça, si ça, si le son est, si le son est correct en, en mono. Mais ouais. C'est vrai que je, c'est une bonne pratique,
ouais. Ouais. Et ce qui est, enfin, pourquoi c'est encore maintenant important de se dire que ton mix doit quand même être bien aussi en mono? Tout simplement parce que des gens se baladent avec des boombox à la plage. Et je suis désolé, mais ce son, alors peut-être il peut être en stéréo, mais comme les haut-parleurs sont l'un à côté de l'autre. Souvent, ça sort un espèce de blooby-boulga de musique. Ben, ça fait un flux plus ou moins mono, quoi. Même, pareil, t'écoutes ça sur ton téléphone, en mode haut-parleur. Pas s'attendre à une image stéréo parfaite. Donc, tu te retrouves avec quelque chose d'inaudible. Peut-être la voix ne va pas ressortir, la basse est un peu mélangée. Enfin, voilà. Donc, très important aussi de l'avoir. Bien sûr, dans l'étape mix, il faut se remettre en stéréo, on est d'accord. Parce que c'est quand même important d'avoir la panoramique.
Ça dépend, parce qu'il y en a qui mixent aussi en mono. Tu peux faire, en fait, justement aussi, pour pas être, encore une fois, pour ne pas être faussé par l'image stéréo, un peu faire la première partie de ton mix, en tout cas, tu vois, quand tu es en train de faire plutôt tout ce qui est les compresseurs, etc., où tu n'as pas trop besoin de l'image stéréo. Mais après, oui, forcément, si une fois que tu veux gérer la stéréo, bah là, tu enlèves le mono, tu te remets en stéréo pour gérer le panning, justement, qu'on discutait. Mais tu peux faire aussi le mix en mono, je pense pas que ça pose de problème en soi. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est que la stéréo, bah, comme on disait juste avant, c'est que ça peut cacher des problèmes, en fait. Indirectement, c'est que voilà, vu que les fréquences, il y a des fréquences à gauche et des fréquences à droite, bah, en fait, on ne se rend pas forcément compte des problèmes. Et c'est une fois qu'on remet en mono que les sons de gauche et de droite sont réadditionnés, c'est là qu'en fait, ils s'annulent et qu'on se rend compte qu'on a des problèmes de phase, donc des sons qui s'annulent. Et des fréquences qui s'annulent, donc, et on se rend compte que plus tard. Donc, du coup, faire tout. Parce que voilà, des fois, ça peut. Si on utilise certains traitements dans le mixage, il y a peut-être aussi certains trucs qui vont. Si tu remets une petite distorsion, un truc comme ça, ça peut rajouter peut-être des harmoniques ou autres et que tu n'entendrais pas en stéréo et que là, tu entendras en mono. Donc, moi, je pense que composer et mixer, du moins, la première partie en mono, c'est pas mal.
D'accord.
Et après, bah, tu repasses en stéréo, forcément, quand tu gères le panning.
Voilà. Et tu me disais que quand tu passais en stéréo, boum, ça ouvrait le mix.
Ah ouais, ça c'est juste parce qu'il y en a. Bon, après, il y en a. Enfin, moi, ça ne pose pas de problème de composer, de mixer en mono. Mais il y en a, comme toi, tu m'as dit, mais je l'avais aussi sur le net, il y en a qui disent ils ont l'impression d'être dans un tunnel quand tu composes en mono et c'est désagréable pour eux. Moi, j'avoue que ça ne me pose pas de problème. Mais après, c'est vrai que quand tu désactives le mono, que là, tu passes directement sur la stéréo, c'est jouissif, quoi. C'est comme si tu avais une nouvelle dimension qui s'ouvrirait à toi avec un morceau et c'est super jouissif. Et en plus, c'est clean et tout. Tu sais qu'il n'y a pas de problème de phase. Et franchement, c'est juste jouissif. Ouais.
C'est quoi ton expérience au CNG?
Non, mais c'est pareil. J'ai eu la même impression aussi quand j'ai testé en mono. Mais le truc important aussi, je pense, c'est bien dire que toutes les basses fréquences, c'est important qu'elles restent en mono, que de ne pas jouer avec à rajouter de la stéréo dans cette partie pour pas brouiller le son.
Ouais. Ça serait quoi à partir de combien d'hertz les basses fréquences?
Je sais pas, moi, en dessous de 120, je dirais.
Ouais, en dessous de 120, ok.
Je sais pas si vous faites comme ça aussi, mais moi, c'est souvent en dessous de 120, je mets tout en mono.
Avant, je faisais ça, mais maintenant, le plus simple, parce que ça peut quand même introduire des problèmes de phase aussi, de couper comme ça dans les basses fréquences, c'est au moins, je mets directement le kick et la basse en mono.
Ah,
donc, comme ça, là, je sais que mes basses fréquences sont en mono. Et tout ce qui est au-dessus, en fait, je nettoie les instruments pour être sûr que quand j'ai des instruments médium ou plutôt aigus qui n'ont pas besoin de basse, en fait, bah, j'enlève les basses. De toute façon, ça va être en conflit avec la basse et le kick. Donc, je fais un petit nettoyage à l'EQ pour enlever toutes les basses fréquences des autres instruments. Comme ça, je suis sûr que les seules basses fréquences que j'ai, c'est le kick et la basse, et eux, ils sont en mono. Et effectivement, pourquoi les mettre en mono? Parce que ça aussi, c'était le point que je voulais rajouter avant qu'on passe à autre chose. C'est qu'effectivement, le kick et la basse doivent être centrés, parce que vu que ce sont des fréquences très basses, si elles sont à gauche ou à droite, qu'il y a de la stéréo, elles vont arriver de manière qu'il y a du délai, donc qu'elles sont décalées. C'est des ondes très basses, qui oscillent très lentement, qui vont arriver de manière décalée à l'oreille de gauche et l'oreille de droite de l'auditeur. Et ça va perturber l'oreille interne et ça peut rendre les gens malades ou donner un sentiment de malaise. Donc du coup, c'est pour ça que par tradition, on met toujours toutes les basses fréquences en mono, en centré. Donc, il ne faut pas de stéréo sur ces éléments-là, parce que sinon, ça rend les gens malades, en deux mots.
Ok, attends, je note. Pour rendre les gens malades, c'est pas... Ok,
ouais,
ça marche.
Tu mets un gros stéréo.
Mon prochain, ouais. Alors, mon prochain titre, ça sera Vomito. Tout
le monde est en train de gerber au festival.
Excellent. Petite astuce pour DJ, quoi. Voilà. Ok. Parfait, parfait. On va passer à un autre sujet grand et vaste et tout ça, mais on va essayer de rester quand même en surface, hein, si on y arrive. Mais c'est effectivement les égaliseurs, donc les EQ. Un EQ, voilà. C'est aussi un autre outil de l'arsenal qu'on déploie lors du mixage. Tu en as déjà un peu parlé, là, bah, juste à l'instant, avec les basses. Mmh. Un EQ, donc, sert à deux choses, hein, on va dire ça comme ça, nettoyer et colorer. Mmh. Alors, je laisse un peu la parole au Sinji pour ça, si tu as des choses à nous dire là-dessus.
Oui, bah... Une fois qu'on a groupé nos pistes dans différents groupes, batterie, basse, synthé, on a chaque groupe doit jouer dans une partie différente du spectre fréquentiel pour pas que les sons s'annulent. Donc on doit faire attention, si on a des synthés qui jouent trop bas, de pas être en conflit avec la basse, donc de, comme Lynn visait, de couper les fréquences basses pour ces éléments, si joue trop aigu, de couper certaines fréquences pour laisser les éléments de la batterie plus audibles et gérer tout ça avec les voix aussi pour s'assurer que les voix soient bien toujours au-dessus des instruments. Donc on a des EQ dynamiques également pour, en fonction de certains sons, de baisser certaines fréquences si un autre son arrive.
Donc ça serait avec une espèce de sidechaining, c'est ça?
C'est ça, ouais, ouais.
Donc on fait rentrer, par exemple, je sais que j'ai deux sons qui collident, enfin qui se font conflit, plutôt que dire ok, dans ce deuxième son, j'enlève carrément la fréquence qui fait chier, je lui dis plutôt ok, tu vas la baisser, mais que quand cette fréquence-là est jouée par le premier son. Et donc là, il faut que ton EQ a une façon de détecter quand la fréquence de la première piste est employée. Et à ce moment-là, va duck, c'est-à-dire va couper la fréquence, mais va la remonter après, le reste de ta piste, finalement, parce que si ça se trouve, ça n'intervient qu'à un petit endroit pile poil, et puis on n'a peut-être pas envie de casser le son, tout le reste du morceau, quoi. Ok.
Ouais, parce que l'EQ, au final, c'est un outil qui nous permet d'augmenter ou de baisser certaines fréquences, donc les mm-hmm. bas, les médiums, les hautes fréquences. Et ça nous permet, mm-hmm. comme disait aussi Sinji, effectivement, c'est peut-être de faire de la place. Et comme toi, tu dis aussi, quand on a deux éléments qui sont en conflit, on peut enlever une partie des fréquences sur un élément pour faire de la place pour un autre. Et donc, c'est ça l'utilité, effectivement, l'une des deux utilités de l'EQ, donc de baisser certaines fréquences pour faire de la place, de creuser un peu les fréquences et de voilà.
Voilà. Et il y a l'aspect coloration aussi. Alors, moi, je vous donne un petit peu mon input à moi. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que soit t'as ton EQ un petit peu qui est livré avec ton dos, on va dire ça comme ça. C'est on va dire des EQ très précis qui sont là juste pour avoir un effet sur les fréquences que tu choisis. Hein. Ils peuvent être dynamiques ou pas. Et des fois, t'as des espèces de VST qui reproduisent des anciennes tranches de console un peu vintage. Hein. On appelle ça un petit peu les plugins boutiques, un petit peu. Alors moi, j'en utilise un. Que j'utilise maintenant comme EQ, bah justement, il permet de rajouter, non seulement bah, il va te servir comme EQ, mais derrière, il va aussi te rajouter une chaleur sur le son. Des fois même des défauts, en fait, des défauts qui étaient enregistrés de ces vieilles consoles analogiques. Donc moi, je m'en sers aussi pour ça. D'ailleurs, je m'en sers actuellement sur mon micro. Donc je ne sais pas si j'ai une voix plus chaleureuse, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'utilise ça aussi pour donner une petite subtilité à mon son, lui donner un aspect vintage. Comme je fais de la musique beaucoup, justement dans le registre du vintage, c'est quand même très utile pour moi. Ça peut être utilisé aussi, je ne sais pas moi, dans le rock ou dans ces musiques à forte connotation analogique. Et que tout d'un coup, au lieu de prendre un micro et d'enregistrer ton ampli de ta basse ou de ta guitare, tu vas brancher ta guitare directement dans ta carte son et tu vas utiliser soit ces amplis un peu vintage, soit effectivement ces EQ un peu vintage, etc. Donc voilà, ça c'est un peu le côté coloration des EQ. Vous avez des expériences là-dessus aussi?
Non, je n'utilise... Bah moi, j'ai ce que tu me disais, ça me faisait penser à un plugin d'Arturia là, que j'utilise, que j'aime bien pour le côté Lofi qui a... comment il s'appelait déjà? C'est Mellofi. Ouais, et t'as un filtre comme ça qui baisse toutes les fréquences aiguës, donc ça donne un son un petit peu plus un petit peu lofi vintage. Et tu as aussi quelque chose qui simule des petites imperfections aussi. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Mais le côté créatif des EQ, moi, j'aime bien aussi, des fois, aller dans l'extrême, augmenter certaines fréquences pour voir ce que ça peut donner, en couper complètement d'autres. Et voilà, faire plus une partie expérimentale. Mais là, on sort du mixage, mais ça peut être un côté intéressant aussi à tester.
D'accord. Alors, le plugin que moi j'utilise, il s'appelle Need, N-E-D, 73, et il fait partie de la Need Collection de Noise Hash Audio Tools. Voilà. C'est un plugin que j'ai reçu gratuitement de mon distributeur. Voilà. Et en fait, il simule une tranche de console, un EQ, quoi, d'une console Neve. Voilà, d'où le nom, Need, Neve. Et pourquoi je l'ai utilisé? Parce qu'en fait, un de mes formateurs l'année dernière, lui, a une vraie table de SSL, je crois, table de mix. Et dans cette table de mix, il avait justement cet EQ Neve intégré dedans. Et il m'expliquait, il me vantait un peu les mérites de ce truc. Il me disait, t'as vu ce que ça rajoute et tout. Et j'ai dit, oh, bah, tiens, comme par hasard, je l'ai en VST. Bah, viens, je vais l'utiliser. Et puis, depuis, je l'utilise. J'en suis assez satisfait. Je m'arrête plus ou moins là dans tout ce qui est, on va dire, VST de coloration, parce que en fait, je préfère utiliser des trucs que j'ai déjà vus en vrai ou que je connais, que je maîtrise et dont je reconnais un petit peu le son. Je vais pas commencer à en foutre partout sans même me rendre compte de ce qu'ils font en réalité ou me dire que j'ai une attache particulière à cette coloration, à ce plugin, quoi. Donc, en foutre trop non plus, c'est pas non plus l'idéal, quoi. Je sais pas si ça induit des problèmes, comme tu disais avant, l'envie de phase sur ces plugins-là.
Je ne sais pas. J'avoue que le côté vintage que ça donne, j'avoue que je ne sais pas si ça se traduit avec des fréquences. Bah, si, ça modifie forcément les fréquences, du coup. Donc, oui, peut-être. Ouais. Mais
ça rajoute peut-être des harmoniques ou des choses comme ça, j'imagine. Voilà.
Oui, ça, le fonctionnement derrière, au niveau technique, je ne sais pas comment ils ont traduit le côté vintage en numérique. Donc, ça va forcément, j'imagine, en chipotant un peu les fréquences malgré tout.
Très bien. Ok, compression, gros sujet aussi. Contrôle VS Vibe. Donc, effectivement, le compresseur, il a un peu cette même dualité que l'equalizer, à savoir, on peut l'utiliser pour contrôler la dynamique d'un son.
Donc, l'écart du signal le plus fort et le plus faible.
Ouais, effectivement. Ou lui rajouter, on va dire, pas une coloration, mais une vibe, c'est-à-dire un aspect, peut-être vintage, ou un aspect, dans le métal, si tu peux avoir des aspects ultra forts ou ultra... Il y a l'aspect parpaing aussi. je crois que c'était notre ami Knarf qui en parlait beaucoup. Donner à ton signal sonore un aspect comme s'il serait d'un seul bloc, c'est-à-dire que tu n'as quasiment aucune dynamique entre le son le plus faible et le plus fort. Et donc, tu as cet aspect parpaing, c'est-à-dire que ton son, il est tout le temps très, très, très élevé. C'est aussi un effet qu'on appelle en radiophonie l'effet broadcast. En broadcast, on aime bien aussi, je veux dire, quand tu écoutes la radio, tu n'as pas envie d'avoir un gars qui chuchote pendant que l'autre, il parle ultra fort, parce que tu n'as pas envie d'augmenter, descendre ton son dans ta voiture. Et tu dois pouvoir écouter ton programme radio, même quand il y a de la circulation, quand tu as la fenêtre ouverte, etc. Donc, tu as cet effet, on appelle un effet broadcast aussi, que j'utilise d'ailleurs sur mon micro, là, actuellement, qui permet d'avoir un son vraiment audible en toutes conditions. Voilà. L'autre exemple, c'est dans un chantier, quand tu mets une grosse radio de très basse qualité au milieu de ton chantier, il faut que tu puisses entendre ce qui se passe dans la radio tout en ayant du bruit autour. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu le côté ce qu'on peut faire avec un compresseur. Mais je vous demande quand même un peu d'expérience là-dessus. Je sais pas, Osinji, toi, compresseur, tu l'utilises comment et où dans le mix?
Bah, principalement, c'est surtout pour gérer basse et kick. Ouais. Traditionnellement, c'est comme ça permet de faire un sidechain sur le kick, comme ça à chaque fois que la basse joue, à chaque fois que le kick joue plutôt, la basse baisse en volume. Du coup, ça permet de gérer facilement, avoir toujours la basse présente avec le kick. Donc c'est la première utilisation pour moi, c'est ça. Et ensuite, c'est pour gérer, comme Lenvy disait, les différences entre les sons forts et les sons faibles.
Ouais.
Comme ça, tu peux ramener le seuil tu peux baisser le seuil, comme ça, t'as vraiment un son plus constant et plus. Enfin, t'as moins l'impression, cette impression d'un son qui s'en va, qui revient, qui est un peu pénible à écouter. Donc là, t'as l'impression d'une. Donc c'est très pratique pour les voix aussi, entre les moments où c'est. Entre les refrains et les moments plus calmes. Comme ça, on a toujours à peu près le même volume perçu.
Alors, je rappelle, hein, on est vraiment dans le registre de la musique électro, puisque. Je pense que ce qu'on vient de dire est une hérésie si tu fais de la musique classique, par exemple. on va pas essayer d'avoir les sons les plus faibles, la petite flûte en arrière. On va pas essayer de la ramener au niveau de la cymbale, tu vois, par exemple, j'en sais rien, puisque c'est cette dynamique qu'on recherche dans cette musique-là. Dans la musique électro, c'est un peu, je pense, différent. Hein. On a vraiment besoin aussi d'avoir de l'énergie dans notre musique. On a besoin d'entendre un peu de tout. La musique électro est aussi des fois écoutée simplement en boîte de nuit ou à fond dans une voiture, etc. Donc il faut un petit peu ce corps, il faut cet effet, peut-être parpaing, j'en sais rien. Mais en tout cas, le compresseur est vraiment notre ami là-dedans. Et par rapport à l'EQ d'avant, l'EQ il va plus se couper les fréquences, là le compresseur il va jouer sur le volume, hein, c'est ça ?
Yep.
Voilà. Et effectivement, là, on va se dire, OK, là, on a deux basses. Est-ce que ça vaut le coup de couper la fréquence au moment où l'autre y joue? Non, on va simplement, paf, baisser le volume, faire entrer le kick. Quand le kick a fini de faire son travail de kick, bah, effectivement, on va remonter le volume et on va essayer d'automatiser ça. C'est ce que tu disais avant, le sidechain. Alors, le sidechain, c'est presque un épisode à part, on va dire ça comme ça, quoique. C'est quand même une notion très importante et très intéressante à étudier. En 5 minutes, on ne va pas pouvoir l'expliquer.
Mais en deux mots, on peut quand même juste préciser qu'on ouais. fait ça avec le kick et la basse, parce que vu que ce sont deux éléments qui sont dans les graves, là, encore une fois, ils peuvent s'annuler s'ils sont joués ensemble. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin de couper le volume de la basse pendant que le kick joue. Sinon, la basse va perdre de la puissance et le kick aussi, puisqu'ils vont s'annuler, ouais. en fait. Donc, c'est le problème de phase dont on a jamais mentionné tout à l'heure.
Ouais. Souvent, ce qui se passait dans un groupe où tu as un batteur et un bassiste, bah, le bassiste il s'arrangeait pour pouvoir jouer sa note après que le kick est joué, quoi, histoire de pas rentrer en conflit physiquement, on va dire. Maintenant on a ces effets de sidechain qui provoquent cet effet de pumping qui est vraiment très très prisé, on va dire, dans la musique électro ou dans certains types de musique électro. On a vraiment l'impression que paf, t'as un vide, t'as le kick qui arrive et puis voilà, tu sens cette basse qui duck, voilà. Exactement.
Mais ça, c'est encore une fois, voilà, c'est typiquement un outil peut être utilisé à la fois pour le côté technique, pour le mixage, pour faire du nettoyage ou autre, et comme il peut être utilisé pour le côté artistique, avec un effet.
Pour la vibe, effectivement. Ouais. Shinji, tu avais une expérience ?
Non, mais c'est vrai que ce côté pompage, comme ça, je ne sais pas si c'est. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas maintenant dans les morceaux qui sortent maintenant, mais parce que maintenant, tu peux choisir de couper uniquement en dessous d'une certaine fréquence. Comme ça, ça permet de, si la basse a des fréquences aiguës, comme ça, tu entends quand même la basse qui est présente ou d'autres sons, au lieu d'avoir comme ça cet effet pompage permanent qui fait peut-être un peu trop French touch.
C'est ça, très utilisé dans la French touch. Hein, moi, des fois, il y a des morceaux maintenant modernes qui ne sont pas forcément French touch. J'entends par exemple dans la synthwave, on l'utilise aussi beaucoup. Quand le sidechain est utilisé, pas uniquement sur la basse, etc., mais quasiment sur l'ensemble du morceau, quand le kick arrive, il y a tout qui descend. En fait, je pense qu'au bout de 30 secondes, une minute, ça me saoule un peu, on va dire. C'est des fois trop présent, cet effet de pumping. Je suis moins fan, effectivement. Donc moi, j'en mets pas le moins possible, mais sur une basse, c'est chouette. Ça, c'est toujours bien. Des fois même, quand ma basse n'est pas trop présente ou puissante, parce que j'ai des morceaux où ma basse, elle est juste là, un petit peu en fond, on va dire, elle n'est pas prédominante, j'utilise plus un EQ, en fait, qui va laisser un peu de la place au kick, pas forcément utiliser le sidechain. Donc ça dépend, effectivement, ça dépend de la vibe du morceau, un petit peu. Quoi. Voilà. Reverb délai, on en a un peu parlé avant dans la spatialisation, dans la panoramique, mais en gros, à part un effet joli, un peu aéré sur un son. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait la reverb et le délai dans le mix ?
Parce qu'on peut gérer la profondeur dans le champ, donc pas gauche à droite, mais on peut s'arranger pour que la voix, par exemple, ou un instrument, il sonne comme s'il était près du micro ou loin, ou qui est au fond. On peut gérer une dimension de profondeur avec la reverb. Donc en ajustant le signal qui rentre dedans et le et la puissance de la reverb, on peut vraiment donner cette dimension de profondeur, d'avoir un élément qui est fort près ou plutôt éloigné. Et donc, en plus de la stéréo, on peut aussi gérer donc, cette dimension de profondeur. Donc, on peut jouer avec un élément encore en plus pour faire de la place et aussi pour le côté artistique. Si on veut avoir des nappes peut-être plus éloignées et puis une voix très présente, ou au contraire, une voix qui est plus féerique, plus éloignée, ben voilà, on peut gérer cette dimension-là avec.
Mmh. Ok. Toi, Shinji, reverb, délai, tu l'utilises comment et où ?
Bah pareil, pour gérer, si tu veux donner la perception qu'un élément est plus loin, plus proche, c'est comme ça, dans ce sens-là. Plus aussi le fait de donner l'impression qu'on joue, que les éléments, que les synthés, que la batterie, et que tout se trouve dans une même pièce, pour un peu reconstituer une réverb, une petite, parce qu'on peut mettre une petite réverb sur l'ensemble des éléments de batterie pour faire comme si la batterie avait été enregistrée dans une pièce et donner de la cohérence au son.
Effectivement.
Comme ouais. Surtout quand on fait de l'électronique, la musique électronique, on prend des sons, des différents sons qui n'étaient pas faits, qui n'ont pas été enregistrés ou créés pour forcément jouer ensemble. Donc ça donne une petite cohérence.
En effet, oui.
Qui est agréable.
J'utilise souvent des réverbes directement sur la piste pour le côté. Bah, je veux que mon son il sonne un peu comme ça, aéré, spatialisé, etc. Parce que c'est l'effet que je veux lui donner, ou la voix, etc., comme tu disais, Olivier. Mais j'ai aussi cette piste FX dans laquelle je mets effectivement une room ou une hall, relativement légère, mais quand même assez marquée, où je vais faire passer un certain nombre de pistes dedans pour en fait donner un sentiment qu'ils sont dans la même pièce.
Oui, pour la cohérence.
Voilà, à différents niveaux, c'est-à-dire que par exemple les drums, effectivement, je vais les mettre un peu plus parce que voilà, ils sont là, ils sont dans la pièce, tu les entends beaucoup. Après, certains synthés ou certains harpes qui donnent aussi un rythme, tiens, je vais aussi les mettre dans cette room, un peu moins parce que sinon, voilà, ils sonnent un peu trop réverb. Et du coup, ça va les gluer un peu ensemble, ça va donner à ton oreille une cohérence. Ah oui, c'est vrai, il est dans la même pièce. J'ai l'impression qu'il est autour de moi, quoi. C'est un peu ça. Et je mets aussi, en général, je joue avec deux réverbes, une plus large, une moins large, et je fais passer l'un ou l'autre instrument dedans pour ça, pour me dire voilà, je vais les spatialiser comme ça. C'est la petite astuce assez sympa. Et surtout, se dire c'est pas la peine de mettre juste un chouïa de réverb pour dire ok, je l'ai mis dedans. Si de toute façon il y a aucune différence entre ce que t'as mis et ce que t'as pas mis, c'est pas la peine de le faire. Voilà, faut. En général, quand je mets de la réverb, je le mets allez, à 2/3, c'est le minimum, on va dire. 2/3 ou sinon à blinde, quoi. Mais de toute façon, c'est une piste FX. Donc, l'idée, c'est que tu as ton son brut qui sort et en plus, tu as le son de la piste FX. Donc, en fait, c'est un mix parallèle, c'est ça ? On appelle ça ?
Oui, on peut dire ça, ouais, quand c'est... Ouais.
Voilà.
Quand t'as les... ouais.
Donc, c'est aussi la différence entre mettre ta réverb directement sur ta piste. Là, tu as tout ton son qui rentre dans la piste. Après, tu peux gérer... tu peux gérer le volume de ton le dry wet de ta reverb, mais si tu fais un mix parallèle, ça veut dire que tu as tout ton dry qui sort de toute manière au niveau attendu, hein, plus en plus ta reverb derrière qui va aussi sortir. Donc voilà. Voilà, reverb delay permet donc de gérer un peu l'espacement de ton mix. Voilà. Très bien. On va passer, alors, est-ce que vous avez des plugins un peu favoris à ce niveau-là sur ces différents thèmes qu'on a abordés, que ce soit, je ne sais pas, peut-être une gamme de plugins où vous utilisez peut-être les plugins de vos DAW respectifs?
Moi oui, j'utilise pas mal les plugins qui sont déjà présents dans Ableton, mais sinon, il y en a un qui est pas mal, il s'appelle Track Spacer, et ça permet de faire, comme on disait tout à l'heure, de faire jouer... Qu'on a deux pistes qui jouent sur les mêmes fréquences, de baisser l'une par rapport à l'autre.
D'accord.
De manière assez facile comme ça. Donc.
En tout cas, le nom est facile à retenir. Track Spacer. Comme son nom l'indique. Ouais. Quoi. Ok. Et toi, Lindy?
Ben, pour tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est les traitements transparents. Donc, si je veux, par exemple, faire un nettoyage à l'EQ, mais sans donner de la couleur ou autre, ben, j'utilise les plugins stock. Donc, les plugins fournis avec Logic. Maintenant, si je veux donner une petite touche un peu vintage ou autre, effectivement, ben, par exemple, j'ai l'EQ Pultec. Et sinon, ben, pour les compresseurs, c'est pareil. J'ai des trucs un peu spécialisés, comme par exemple j'ai l'oreille 1176 qui donne un peu saturation, qui est bien pour les drums, etc. par exemple. Donc j'ai... Parce que voilà, c'est vrai que des fois on pourrait se dire un EQ c'est un EQ, donc pourquoi en avoir plusieurs ? Mais voilà, c'est pareil, c'est que certains ils ont un peu leur type, leur caractère, et donc du coup tu peux les utiliser certains pour certaines applications et d'autres bah, dans d'autres cas de figure. Donc voilà. Maintenant, les plugins, plugins avec lesquels je jouerais, il y en a un. Donc c'est ADPTR Meter. Et en fait, c'est un. Enfin non, ADPTR Metric AB, pardon. Et en fait, c'est un plugin un peu tout en un qui permet de faire de la comparaison AB, donc de comparer son morceau, son mix avec un autre morceau. Parce que moi, je suis un fervent avocat de travailler avec des tracks de référence. Parce que moi, c'est ça qui m'a permis de step up quand j'avais regardé mes premiers mix et puis de regarder les suivants. C'est de travailler avec une track de référence parce que. Pour moi, mixer, après, il y en a plein, voilà, c'est des professionnels ou d'autres qui ont de l'expérience, ils arrivent à mixer à vue, sans référence. Moi, pour moi, c'est compliqué de mixer à l'aveugle, parce que moi, j'ai l'impression de mixer à l'aveugle quand je mixe sans track de référence. Donc, du coup, bah, c'est plus simple de charger 2-3 pistes de référence pour lesquelles je vais me servir d'exemple pour le mix. Comme ça, je peux comparer et voir si mon mix, bah, il n'est pas trop clair, pas trop étouffé ou des trucs comme ça. Donc du coup, ce plugin-là, il est génial parce qu'en fait, on peut faire une piste de référence dans son dos donc sans problème. Et en fait, ce plugin-là, il est sympa parce qu'en fait, il permet de faire des comparaisons directement avec le spectre audio, l'image stéréo, etc. Donc, c'est un plugin tout en un.
Le volume aussi, le volume perçu, tout ça.
Le loudness, ouais, c'est ça. Ouais, donc, du coup, il permet de faire tout ça dans une seule fenêtre au lieu de devoir à chaque fois changer de plugin et trucs comme ça. Donc du coup, on peut faire une comparaison à l'audio très simple et en plus d'avoir des graphiques sous les yeux pour confirmer au cas où on n'est pas sûr à l'oreille, quoi. Donc c'est vraiment mon plugin qui m'aide le plus, je dirais, pour mes mix.
Ok. Et c'est déjà même du mastering, presque, non ?
Oui, il sert pour le mastering aussi, oui.
Ouais, ouais. Non, ouais, parfait, parfait. Bon, j'ai déjà cité un peu mes plugins avant. En tout cas, l'EQ Need, le DR Reality pour la spatialisation. Il y avait ça. Et puis, ben, j'ai le AB Meter aussi. Pas de souci. Sinon, j'utilise les plugins stock de Bitwig, qui sont très, très bons. Il y a même de la modulation et des choses comme ça qui sont vraiment cool. Et j'utilise aussi les plugins de Ozone. Alors, certes, Ozone, ça te permet de faire du mastering automatique en bout de chaîne, mais en fait, lors de ce mastering, il se sert de plusieurs plugins amalgamés entre eux. Et en fait, pris séparément, ils sont pas mal. Par exemple, t'as ce Steq Dynamic qui est pas mal. Alors, ça bouffe beaucoup de ressources, hein, ça, on en a déjà parlé, mais ils sont très bons. Voilà, ils ont des presets aussi très intéressants. Je sais pas vraiment. Je dis ok, il y a quelque chose à corriger là-dedans. Bah, je vais mettre le plugin, je vais charger le preset spécifique pour ce type de musique ou de ce type de piste. Et puis, ça va m'aider à déjà avoir un paramétrage de base et puis après à le modifier derrière. Ça, c'est aussi la petite astuce et le petit truc sympa. Voilà. En plus, quand on a, je crois maintenant, on a la Native Instrument Complete. Je crois qu'il commençait à y avoir de l'ozone intégré dedans. Donc, des fois, on se dit, ah, tiens, il me faut à tout prix un nouvel EQ ultra, ultra cool. Bah, en fait, on l'a peut-être déjà dans notre arsenal. En fait.
Pareil, dans la suite Arturia, il y a pas mal de plugins très intéressants. Ou des appareils vintage qui ont été retransformés en plugins. Donc là, il y a des suites de logiciels comme Arturia ou effectivement, comme tu dis, Isotope, où il y a des packages de plugins qui peuvent être sympas aussi pour donner des points de départ dans le mixage ou autre.
Ouais, tout ce qui est Fab Filter aussi, c'est un classique aussi.
Alors justement,
la suite, mais je ne l'ai pas encore. Ah. J'ai Pro Q, Pro Q 3 et maintenant 4 que j'utilise. De plus en plus, et voilà.
Justement, quand je voyais arriver tout le monde qui jure que par FabFilter, effectivement, il a l'air vraiment, vraiment cool. C'est là où je me suis dit, attends, est-ce que je vais encore débourser X pour avoir cette gamme de plugins ? Et je vais devoir de nouveau m'entraîner sur cette gamme de plugins. Et à chaque fois que je veux me décider à faire un achat de VST, je vais d'abord voir si dans mon arsenal, je l'ai déjà quelque part. Alors, c'est pas le même, mais est-ce que j'ai pas déjà un truc qui est similaire ? Et au pire, bah, je monte plutôt en compétence sur ce dernier. Et puis après, finalement, il fait le job. Voilà. C'est mon. Non,
de toute façon, c'est voilà. Parce qu'on a tendance à acheter quand on écoute tous les constructeurs. On a envie de tout acheter, mais c'est.
C'est ma technique ouais, anti-gaz.
Depuis, je me suis donné le comme bonne résolution de rien acheter cette année. En plugin, en tout cas. Comme j'en ai déjà assez, il faut. Et c'est pareil, il faut que je maîtrise un peu plus tout ce que j'ai déjà.
C'était sinon, aussi ma résolution. Hein. Bon, à 6 mois, c'est déjà mort.
C'est raté.
Sinon, il y a des solutions comme Waves. Qui ont initié ça, mais il y a aussi d'autres constructeurs qui font ça maintenant. C'est des systèmes d'abonnement où tu as accès à tous leurs plugins. Donc, tu vas peut-être payer 10-15 balles par mois, mais par contre, tu as vraiment accès à des milliers de plugins. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de les acheter individuellement et tu as accès à tout.
Et je crois que ça pourrait même être une solution de se dire quand tu arrives dans ta phase de mix, tu payes l'abonnement, tu t'en sers et après, tu enlèves l'abonnement. Voilà. Alors, c'est à double tranchant parce que tu ne peux pas réouvrir ton job si tu n'as pas payé l'abonnement. Quoi. C'est un peu l'idée. Enfin, ton fichier, on va dire.
C'est ça, il faut que tu printes tes pistes.
Voilà. Tu peux bien sûr après faire ton bounce, mais c'est délicat. Mais ça peut être une solution économique, effectivement. Alors, moi, j'ai aussi du Wave Audio aussi, mais j'utilise un petit peu moins. Et c'est beaucoup plus des. Comme on disait, c'était des VST un peu boutique. Hein, vraiment, ils essaient de reproduire un peu du vintage. Mmh. Donc, je suis un peu moins fan, comme j'ai dit. Voilà, ceux que j'ai avec mon dos, ils marchent très, très bien.
Ah, oh, moi, j'adore le H-Delay de Waves, je le surkiffe.
C'est vrai?
J'en ai testé plein des delays, c'est vraiment celui que je préfère. Quoi. Il coûte 20 balles et parfait.
H-Delay, je vais voir. Je ne sais même pas si je l'ai. Je le testerai, on va voir ça. Ok, un petit point sur le mix. On en parlait un petit peu avant. Moi, quand j'ai abordé le mix, je me suis toujours dit « Oh putain, c'est vraiment une étape ultra technique. » C'est vraiment technico-technique, c'est le technicien. Voilà, il est là sur son truc et il fait son son. Quoi. C'est un peu saoulant, en fait. Mais en réalité, est-ce qu'il y a une part créative dans le mix?
Bien sûr, des décisions. Parce que, comme avait dit Osinji tout à l'heure, au début, c'est quand il avait passé par un ingé son, c'est qu'on peut avoir plusieurs mix différents, pas plusieurs personnes, parce que certains ont des visions. Il y a une vision aussi, une notion de vision dans le mix, donc on peut faire plusieurs mix différents, pas parce qu'il y a forcément qui est meilleur ou moins bien que l'autre, mais parce que voilà, un ingénieur du son ne va pas mixer forcément de la même manière qu'un autre ingénieur du son, donc il y a une part de créativité quand même, je pense.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a des parties pris. De toute façon, c'est si tu veux mettre, ça dépend ce que toi tu veux mettre en avant. Pourquoi tu fais ton morceau, tu vas choisir de mettre des éléments plus en avant, plus une batterie plus derrière ou plus en avant. Ça dépend ce que tu veux faire avec ton morceau. Donc ça, c'est personne d'autre que le créateur du morceau peut décider, quoi. Donc
ouais. Alors, moi, j'ai repris un peu le fun de cette partie-là, et effectivement, avec la spatialisation. La spatialisation m'a permis de me dire, ah, c'est cool, maintenant, je peux prendre mes instruments et les mettre à droite, à gauche, et je trouve ça... J'ai trouvé un peu le côté fun avec ça. Le reste est un peu technique, tout ce qui est EQ, compression, etc. Bon, c'est encore un petit peu le côté, ah, il faut que je cherche à l'oreille, qu'est-ce qu'il y a... Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Mais le côté spatialisation m'a beaucoup été beaucoup plus ludique pour moi, grâce d'ailleurs au plugin que j'ai cité avant. Donc ça me permet un peu de plus de me lâcher et puis de trouver ça un peu plus fun. Donc chacun trouve un peu son fun là-dedans ou pas. Toi par exemple, une vie, c'est tout d'un coup paf, t'enlèves le mono et puis tu trouves ça beaucoup plus fun d'un coup aussi, j'imagine. Donc voilà, quand t'as fait je sais pas moi 40 heures de composition en mono, je pense bien que c'est une petite révélation pour toi aussi. Hein. Ça peut être un truc intéressant. Voilà. Donc oui, effectivement, il y a une approche quand même relativement créative, voire même au moment du mix, ça te révèle des choses où tu te dis, bon, je vais peut-être repasser sur mon instrument et peut-être le modifier un peu plutôt que de le couper à la scie circulaire de l'EQ. Voilà.
Si en général, tu as des problèmes au niveau du mix, c'est que bon, en général, c'est pas mal de quand même de revenir sur tes pistes pour refaire un synthé, pour réarranger certains sons.
Moi, je voyais surtout sur certains presets de synthé qui aiment bien être généreux avec des reverbs et des choses comme ça. Tout d'un coup, moi, bon, maintenant, j'ai pris l'habitude, c'est quand j'entends un synthé, je vais déjà voir s'il y a un effet dessus. Et si c'est une reverb ou ce genre de choses, je le coupe. Comme ça, à la limite, je m'occupe de la reverb au mixage. Et si le son, il est pourri sans la reverb, c'est qu'il ne mérite pas d'être dans mon morceau. Ou alors, je remets moi-même la reverb derrière, comme ça, je le maîtrise. Et qu'il n'est pas planqué quelque part dans un VST obscur ou dans un réglage, quoi. Donc ça, je maîtrise
un
peu
tous les effets sur les presets. Ils en mettent beaucoup pour, ouais, pour te vendre un peu le son.
C'est
pour,
ça.
Pour quand tu écoutes le son, tu dis waouh, mais après. C'est...
Bah, un autre problème, c'est la perception auditive. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on regarde, il y a beaucoup de plugins, ils ont un bouton de gain. Et alors, quand on regarde les presets, c'est qu'on voit que le gain, il est enclenché avec 3, plus 3 décibels, plus 6, parfois plus 9. Et en fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est d'avoir des outils comme Perception AB ou Ornette Meter dont on parlait. C'est de faire attention, c'est que du coup, quand on met un compresseur ou d'autres effets, une reverb ou autre, des fois, ils augmentent le gain parce qu'on le sait, la conscience du cerveau fait que plus le volume est fort, plus l'impression que ça sonne mieux. Et si on regarde, il y a beaucoup de plugins, ils enclenchent le gain. Et du coup, tu as l'impression que ça sonne mieux, alors que non, ça ne sonne pas mieux, c'est juste que c'est plus fort. Et alors, ce qui est ça qui est intéressant, c'est de vérifier que le volume d'entrée est le même que le volume de sortie après le plugin. Mmh. Parce que sinon, tu pourrais te fausser, tu pourrais avoir l'impression que ça sonne mieux, alors que non. Mmh. Et c'est pareil qu'un EQ, hein, tu vas peut-être booster certaines fréquences en te disant que ça sonne mieux, alors qu'en fait, c'est juste la perception du volume.
Et flatté, ouais. Mmh.
C'est ça. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est bien de s'assurer, soit manuellement ou soit avec l'aide d'un plugin, de vérifier que le volume d'entrée et de sortie de la piste soit toujours la même. Comme ça, et qu'on ne soit pas faussé par des volumes, des changements de volume, des plugins, dans la chaîne de plugins, quoi.
Et ça, c'est alors, petite rien. Anecdote rigolote, je crois que vous l'avez partagé cette vidéo, c'était James Hype qui montrait qu'un de ses tracks numéro 1 qu'il avait sorti, bah, en fait, c'était le preset de base de Serum avec une reverb. Vous l'avez vu celle-là, c'était trop bien. Il montrait, je vais vous montrer le secret de mon morceau, et puis en fait, il charge Serum, il met initialisation, preset initial. Je pense, en fait, ce qu'il racontait, c'est qu'il galérait à trouver le bon instrument. Et à la fin, il a juste chargé Serum. Il a mis le truc de base. Il a dit, oh, mais en fait, c'est bon, ça. Puis il a mis une petite reverb et c'était parfait. Puis ça a fait un tube. Comme quoi. Voilà, voilà. Autre chose sur ce sujet.
Personnellement, je pense avoir tout abordé dans les grandes lignes.
Très bien. Voilà. Quelques conseils encore, erreurs à éviter, workflow et conseils pratiques, tout ça, tout ça.
Bah, les conseils, ce serait surtout de comparer son morceau quasiment tout le temps avec, avec une référence pour pas partir dans le mur tout seul comme
exact.
Ça. On a l'impression parce que moi c'est pareil, j'ai l'impression des fois d'avoir fait un super mix, après tu écoutes un morceau que t'aimes bien à côté, tu dis putain, c'est horrible,
c'est pas possible,
il faut que je revienne dessus. Et là, donc ça te fait gagner du temps. Comme ça, si tu commences à apprendre cette bonne pratique de toujours bien comparer.
Alors moi, ensuite, vas-y.
Ouais. Non, ensuite, je voulais dire, c'était de faire écouter après son mix à différentes personnes pour avoir des retours. Et ça, voilà, avoir une oreille neuve, parce qu'on peut, des fois, on peut passer du temps, des heures et des heures sur son mix. Après, forcément, on va soit trouver que son morceau, il est super, mais il faut faire écouter un maximum à des gens, à d'autres personnes, pour avoir des critiques objectives. Des personnes qui n'ont pas du tout entendu le morceau, qui entendent le résultat final et vont dire « Ah ben non, c'est pas possible, ton truc, c'est horrible. » Donc voilà.
Ouais. Bah ouais, moi, le truc que j'utilise avant d'utiliser le metteur AB, là, l'outil que tu conseillais,
Metric AB, AD, PTR, oui.
Metric AD, ouais. En fait, j'utilisais simplement une piste désactivée. Dedans, je mettais les tracks de mes morceaux de référence. Et puis, en fait, dans Beatwig, tu as moyen de faire du AB aussi. C'est-à-dire que chaque piste, tu peux le mettre en A ou en B. Donc, je mettais toutes mes pistes en A et puis cette piste de référence en B. Puis après, tu avais un slider. Tu peux dire, OK, je passais de l'un à l'autre.
Effectivement, du master. Mais...
OK. Bah, c'est tout bon. On a abordé quand même pas mal de choses. J'avais encore un dernier sujet qu'on peut vite aborder. C'est mixer en collaboration. On a eu cette expérience, en tout cas, Lindvi et moi. Vous deux aussi, vous aviez fait une collaboration entre vous. Comment vous avez abordé cette phase de mix, Osinji et Lindvi?
On a tiré la courte paille.
Nous, on faisait du... Comment? Ouais, on faisait du ping-pong. On s'échangeait les fichiers. Donc, je pense que le mix c'était plus moi, après je t'avais envoyé les pistes, enfin on s'était arrangé comme ça, puis après on s'échangeait les pistes et après on s'était mis d'accord sur le mix final.
Ouais.
Mais on n'était pas en direct, donc du coup c'était...
Non, t'as fait le mix et j'ai fait le master.
Ouais.
D'accord.
Du coup, le mix c'était plus de mon côté, mais voilà.
Et de souvenirs.
Vous étiez, en direct, je crois, pour le. Vous avez mixé en direct.
Non, on a fait deux versions, une version chacune et on l'a comparé.
Ouais, en fait. Alors, on travaillait effectivement en par session ensemble, en partage d'écran. Et avec l'outil Sonobus qui nous permettait vraiment de pouvoir streamer nos audios respectifs de nos dos. Donc ça, c'était cool. Mais je crois qu'à l'époque, on n'était pas encore autant Linvy que moi ultra à l'aise dans le mix et dans le mastering. On avait nos deux méthodes, que ça soit clair. Et au bout d'un moment, on s'est dit, OK, viens. Et c'était ce qu'on s'était dit dès le début de la collaboration. Si on n'est pas d'accord sur quelque chose, on fait appel à du 50-50 ou à l'appel au public ou ce genre de choses. L'appel à un ami, ouais. Et en fait, on s'est dit, OK, on fait chacun nos versions comme on l'entend. Comme ça nous fait progresser nous-mêmes aussi. Et on a demandé à la communauté, la mini-communauté de la masterclass de 2024, qu'on avait fait avec Communauté des Sondiers, justement. Et on leur a posté ça. Et puis, ils nous ont donné un avis. Et puis, on a retenu celle qui nous plaisait, quoi. Donc voilà, on a en gros chacun fait nos techniques et le but du jeu, c'est qu'après la technique retenue, le gars qui l'a fait a dû expliquer à l'autre comment il a fait. Voilà, pour qu'il puisse faire progresser l'autre, si jamais. Et au final, c'est quand même, c'est ma version qui a été retenue, mais c'est quand même Linvy qui m'a fait un coup.
C'était à l'époque où je travaillais sans piste de référence encore à ce moment-là. Donc c'est ça que je dis que ça a changé ma.
Je crois qu'on a commencé à. Si, on l'utilisait déjà à la piste de référence.
Mais pour la composition. Mais moi, pour le mixage, je ne l'utilisais pas encore de piste de référence pour le mixage.
Ah, d'accord.
Et c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est le truc le plus important, parce que c'est là où j'ai vraiment step up et où mes mix sont devenus propres. Alors qu'avant, comme disait aussi Nji, le problème, c'est. Après, il y en a qui arrivent à le faire sans, mais si tu mixes sans phare, sans référence, si tu vas dans le mur, tu t'en rends pas compte, en fait, t'as rien pour te guider. Mm-hmm. Quand t'as une piste de référence, si tu dévies trop, tu te rends compte que là, ça va pas du tout, ça sonne pas du tout pareil.
Voilà, donc ça, c'était un petit peu des conseils au niveau collab, nos expériences, c'est pas vraiment un conseil, c'est l'expérience qu'on a eue chacun, mais faut pas hésiter aussi à garder confiance et à se dire, OK, on n'est pas d'accord sur un truc, viens, on compare. Hein. Tu sais, des oreilles externes, ça peut aussi aider. Donc, comme on disait avant.
Ah, c'est ça, parce que moi, pour les astuces, moi, je n'ai pas donné les miennes, mais moi, je dirais qu'il faut faire peut-être plusieurs versions du mix et bien laisser reposer ses oreilles aussi, de ne pas hésiter à faire une pause d'un jour ou deux, le temps que les oreilles oublient un peu le morceau, parce que quand on a tête dans le guidon, on n'a plus de recul, comme tu avais mentionné partiellement tout à l'heure. Donc moi, je dirais surtout ces deux choses-là aussi, c'est de faire des pauses
se reposer,
et de faire peut-être plusieurs versions du mix si on n'est pas sûr, et puis après de choisir de se reposer encore et de choisir la version du mix qui nous plaît le mieux. Donc,
Eh bien, très bien, on a fait, je pense, un peu le tour du sujet, bien sûr, un petit peu en surface. Hein. On ira très certainement dans le détail dans d'autres épisodes. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Entre deux notes. On espère que ça vous a donné envie de retourner mixer avec plaisir. Mais avant ça, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Tiens, Linvy.
Alors moi, vous pouvez me retrouver sur mon site linvy.com, LYNVY. Donc, vous avez tous les liens vers mes réseaux, les liens vers mes musiques. Donc, je suis surtout disponible sur Instagram, si vous voulez voir l'envers du décor, et sur toutes les plateformes de streaming, si vous voulez m'écouter. Voilà.
Très bien. Cool. Et toi, Osinji, on te retrouve où ?
Osinji, le site, c'est osinji.music. En anglais, .music, et voilà, sinon, vous tapez aussi Osinji dans Google, il y a Instagram, SoundCloud, Spotify, voilà, en gros.
Et parfait, Pascal.
Pour moi, on peut me retrouver sur mwtprod.com, mwtprod.com, vous retrouvez tous les liens, pareil, vous trouverez aussi même un endroit pour retrouver ce podcast, voilà, si vous écoutez ce podcast, mais vous ne savez pas d'où, vous pouvez le retrouver sur site, c'est magique. Donc voilà, vous retrouvez aussi une playlist dans laquelle vous retrouverez mes musiques et d'autres morceaux, comme ça vous comprendrez un peu mon univers. Voilà. C'est top. J'ai plus qu'à vous dire une petite chose, c'est abonnez-vous, laissez un petit commentaire, une petite note, c'est toujours appréciable, ça permet aussi de nous mettre en avant sur les différents endroits où vous trouverez ce podcast. Et ça nous aide énormément, voilà. On se retrouve très bientôt entre deux notes. Allez, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Salut.